Il est 7h03 minutes, Tommy Chouinard, bonjour.
Bonjour Louis.
Alors, parlons un peu de mécontents, des gens qui sont pas contents du système de santé. Québec a reçu près de 3000 messages de la part de travailleurs de la santé qui dénoncent des situations dans le réseau de la santé depuis qu'on a mis en ligne là, cette fameuse plateforme « On vous écoute ».
Exactement. C'est il y a 2 mois, le gouvernement Legault qui mettait en place une boîte de courriel « On vous écoute » pour permettre aux travailleurs de la santé de dénoncer des situations en toute confidentialité, pour aussi mettre fin, et je cite le gouvernement à ce moment-là, de mettre fin à l'omerta dans le réseau de la santé. Parce que souviens-toi, Louis, depuis le début de la pandémie, de nombreux travailleurs nous disaient, aux médias en particulier, disaient craindre de subir des représailles, mm-hmm. s'ils dénonçaient des situations qui n'étaient pas jugées acceptables. Puis on a produit donc des reportages, souvent grâce à des témoignages anonymes de travailleurs de la santé, qui montrait au grand jour, au fond, un écart entre ce qui se disait à la fameuse conférence de presse quotidienne du premier ministre sur les directives données par le gouvernement des ministères et ce qui se passait véritablement sur le terrain.
Oui.
Et donc, depuis 2 mois, c'est une moyenne de 60 courriels par jour que le gouvernement a reçu dans cette boîte de courriels-là. Évidemment, ça a été très fort au début, là, de la mi-mai là, à la mi-juin. Beaucoup, c'était plus tranquille dans les dernières semaines en raison des vacances, mais quand même. Mais sur ces 4000 courriels-là, une fois qu'on a fait le ménage là, dans tout ça, ils ont constaté que au fond, il y avait près de 3000. Je sais que tu aimes les chiffres précis, Louis. Oui. 2911, exactement. Messages qu'on peut qualifier donc de pertinents, que l'on pouvait véritablement traiter.
Mais est-ce qu'on sait quelle était la teneur des plaintes ou des problèmes qu'on notait?
En tête de liste, justement, des situations dénoncées, à peu près, grosso modo, un peu plus du quart des dénonciations concernaient des conditions de travail jugées inacceptables.
Ouais.
Et là, c'est là où je t'amène à ce dont on se parlait la semaine dernière, le fameux arrêté ministériel, dont j'adore le nom, 007.
Oui.
Qui est venu, durant la pandémie, suspendre l'application de différentes dispositions des conventions collectives pour permettre, au fond, au gouvernement de replacer le personnel où il voulait, de rechambouler de permettre au gouvernement, au gestionnaire des établissements, devrais-je dire, de revoir les corps de travail, de réaffecter le personnel. Et puis ça, il y a des syndicats, dont la FIC, là, qui est devant les tribunaux par rapport à l'application, là, aujourd'hui encore, de cet arrêté ministériel-là. On juge ça abusif. Donc, il y a beaucoup de récriminations qui touchent les conditions de travail. Et quand un travailleur de la santé dénonce des conditions de travail, il parle de ses conditions, évidemment, à lui, mais qui a des répercussions aussi
sur le patient.
Oui. Parce que le patient, la surcharge de travail, on en a parlé beaucoup, ça a des conséquences sur les patients. Puis la surcharge de travail, je te signale, on est en train de négocier là, avec le gouvernement, les centrales syndicales, les conventions collectives. Je te dirais que j'ai fait le tour, là, puis c'est vraiment dans le réseau de la santé où les demandes des syndicats sont vraiment les plus importantes en ce qui a trait aux conditions de travail. Là. Au-delà du salaire, évidemment, tout le monde demande plus d'argent, là, mais dans les règles, dans les conditions de travail comme tel.
Ce qu'on appelle le normatif. Là.
Exactement, le normatif. Il y a plusieurs demandes à ce sujet-là. Puis d'ailleurs, autre lien, la fameuse lettre dont je te parlais la semaine dernière de la sous-ministre Dominique Savoie, la sous-ministre de la Santé, qui disait
« Levez le pied un peu. »
Il faudrait peut-être, jeter du lait un peu dans l'application de l'arrêté ministériel. Je pense que le gouvernement voit vraiment qu'il y a de la grogne dans le réseau au sujet des conditions de travail. Et il y en a la preuve au-delà des témoignages qui sont faits là, par les chefs syndicaux. Là. Vraiment, sur le terrain, ça a de l'impact. Autre sujet de dénonciation, Louis, les fameuses primes. Les primes COVID, il semble toujours y avoir des problèmes au sujet du versement de ces primes-là, parce que dans certains cas, il y a eu de longs délais.
Ouais.
Et aussi sur qui a droit à ces fameuses primes de 4 ou 8 %. Il y a différentes règles. Il faut être en contact étroit avec des gens atteints, potentiellement en contact étroit avec des gens atteints de la COVID pour avoir le maximum. Et il y a des problèmes de ce côté-là. Le troisième sujet en importance, puis là, il n'y a pas beaucoup de précision, mais c'est au sujet de la mauvaise gestion. Donc, des constats qui sont faits par les travailleurs de la santé au sujet de mauvaise gestion. Et aussi, d'ailleurs, on m'a signalé que Il y avait, dans certains cas, il y a eu une intervention qui a été faite dans un CIS ou un CIUS, alors que des travailleurs de la santé, il y a eu plusieurs témoignages dans la boîte de courriel au sujet de problèmes de facturation de la part de certains médecins. Donc, il y a quand même des dénonciations qui ont été faites. Oui, là, je n'ai pas l'histoire précise, mais ça a été traité au ministère de la Santé. Il y a eu une intervention, puis les constats se sont avérés. Okay. D'autres éléments qui sont relevés, les transferts en zone chaude et zone froide du personnel, donc des problèmes encore une fois. Mais
et ça a été dénoncé depuis le début. Là,
exactement. Là, le problème est moins fort parce qu'on crée ce qu'on appelle un peu des équipes dédiées là, pour éviter ces problèmes-là. Puis au fil du temps, j'ai vérifié, au début, beaucoup de dénonciations touchaient le manque de matériel, d'équipement de protection individuelle mimé. Puis aujourd'hui, il n'y en a plus. On ne dénonce plus ces situations-là. Un total aussi intéressant, il y a des situations très précises qui ont été racontées sur de la négligence, de la maltraitance de certains bénéficiaires, par exemple dans des CHSLD, ou des violations évidentes des règles de la santé publique. Ça a exigé l'intervention du ministère et un suivi serré pour un total de 15 situations comme celle-là qui ont été quand même jugées préoccupantes.
Alors, c'est intéressant, cette ligne-là. Ils devraient la garder plus longtemps.
Plus longtemps, mais aussi, et c'est formidable que tu m'amènes là-dessus, parce que, le gouvernement est en train d'étudier ses options pour pousser un petit peu plus loin cet exercice-là, puis essayer d'avoir une structure plus solide là, qu'une boîte de courriel. Puis, dernière chose, on veut revoir les ententes de confidentialité qui sont signées par les travailleurs de la santé. Oui, évidemment, il faut garder confidentielles les informations concernant l'état de santé des patients. Ça va de soi, un travailleur de la santé ne peut pas se mettre à divulguer à des tiers, donc l'état de santé des patients. Mais dans certains cas, on a constaté, c'est que les établissements, les ententes faites par certains établissements vont bien au-delà de ça, ce qui revient à exiger, au fond, l'omerta. Et là, le gouvernement veut y mettre fin. Il y a toujours des réflexions en cours à ce sujet.
Bon, rapidement, le premier ministre Justin Trudeau va témoigner jeudi devant le comité parlementaire qui se penche sur l'affaire We Charity. Mais à tous les jours, on apprend des nouvelles choses. Ce matin, ce qu'on apprend d'intéressant dans l'histoire de We Charity, c'est que c'était pas 912 millions que We Charity devait administrer, c'est 543 millions et demi. Donc, c'était la moitié moins. Et en plus, il recevait à peu près 43 millions et demi pour gérer ça. Donc, il recevait plus d'argent que ce qu'on pensait pour administrer moins d'argent que ce qu'on pensait.
Ben oui, puis en plus, il devait empocher 33 des 43 millions de dollars dès le 2 juillet.
Exactement.
Mais là, ça, c'est la date à laquelle, finalement, ils se sont retirés de la gestion de ce programme-là en raison de la controverse. On en apprend tous les jours. C'est des documents qui ont été déposés hier au comité parlementaire qui se penche sur ce scandale-là qui ne cesse de prendre de l'ampleur.
Ouais.
Donc, témoignage jeudi de Justin Trudeau, première fois qu'un premier ministre est forcé de témoigner de la sorte depuis 1932 devant un comité parlementaire, quand même, ça remonte à loin. Deuxième chose, les deux frères fondateurs passent aujourd'hui, vont donner leur version des faits aujourd'hui au comité, ça promet. Moi, je pense que ça va prendre des réponses à certaines questions, dont l'aveu d'un frère, d'un des deux frères qui disait que ça avait été réglé avec le bureau du premier ministre. Il s'est rétracté par la suite, mais il avait quand même fait une vidéo pour dire que tout ça avait été réglé avec le bureau du premier ministre. Donc, il y a plusieurs questions qui vont être posées au frère Kilberger là-dessus.
Exactement.
Il faudra faire la lumière là-dessus. C'est un enchevêtrement de situations, de cette histoire de conflit d'intérêts. On rappelle le scandale des commandites dans certains cas.
Exactement. Mais écoute, dans le Globe and Mail ce matin, on pose la même question que je t'ai posée la semaine dernière. Ben, pas une question, mais c'est plus un questionnement, à savoir pourquoi les politiciens sont si accros à We Charity. Et on n'arrive pas à trouver de réponse. Et ce matin, on apprend dans le journal, dans le Globe and Mail, que Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, a aussi des liens avec We Charity. De même que le Toronto School Board, qui est un organisme électif, il y a des gens qui se font élire là-dessus, là, c'est politique, le Toronto School Board, eux aussi ont des liens avec We Charity. Évidemment, je vous fais grâce de Trudeau, de Morneau puis de leur famille, là. Mais pourquoi est-ce que les politiciens sont si attachés à We Charity? j'ai une idée, je ne la dirai pas maintenant, mais j'ai une idée, puis je pense que tu as la même que moi.
Oui, mais...
Et il reste à le prouver, tu sais.
Oui, exactement. Il faut que ce soit démontré.
Exact.
Puis aujourd'hui aussi, ce qui peut permettre d'apporter un éclairage intéressant, c'est sur la structure de cette organisation-là, qui est un organisme de bienfaisance, mais qui a également une branche qui est commerciale, donc à but lucratif, qui gère aussi une fondation qui gère des actifs immobiliers, je pense, de 50 millions de dollars.
Exactement.
À Toronto.
Et qui a une dette de 30 millions, soit dit en passant, l'organisme.
Aussi, ça tombait bien, cette gestion de programme-là avec 33 millions du gouvernement.
Voilà.
Mais bon, tu sais, il reste des ficelles à attacher. Les questions devront être posées par les parlementaires. Donc, il faudra compter sur eux pour apporter les précisions nécessaires.
Voilà. Merci, Tommy. À demain.
À demain.
Au revoir.